Deuxième partie, chapitre 5. Après une semaine de voyage en Écosse, Milord et Milady revinrent subitement à Londres. Sa visite aux montagnes et aux lacs écossais n'avait point donné à Milady le désir de faire plus ample connaissance avec eux. Quand on lui en demanda la raison, elle répondit laconiquement « J'ai déjà vu la Suisse ». Pendant une semaine encore, les nouveaux mariés restèrent à Londres, vivant en véritable reclus. Un jour, la vieille nourrice qui revenait de faire une commission dont Agnès l'avait chargée, rentra dans un état d'excitation difficile à décrire. En passant devant la porte d'un dentiste à la mode, elle avait rencontré Lord Montbarry qui en sortait. La bonne femme dépeignit cette rencontre avec un malin plaisir, représentant Lord Montbarry comme affreusement malade. Ses joues se creusent, ma chérie, sa barbe est grise, ah, j'espère que le dentiste lui a fait beaucoup de mal. Sachant que sa vieille et fidèle servante haïssait de tout son cœur l'homme qu'il avait abandonné, Agnès fit la part d'une grande exagération dans le récit qu'elle venait d'entendre, mais néanmoins, sa première impression fut celle d'un véritable malaise. Elle risquait, en effet, elle aussi, de rencontrer dans la rue Lord Montbarry. Il était même possible qu'elle se trouvât face à face avec lui la première fois qu'elle sortirait. Elle resta deux jours entiers chez elle, honteuse de cette crainte ridicule. Le troisième jour, les nouvelles du monde, dans les journaux anglais, annoncèrent le départ pour Paris de Lord Montbarry se rendant en Italie. Madame Ferraris vint le même soir prévenir Agnès que son mari l'avait quittée en lui donnant quelques preuves de tendresse conjugale. La seule perspective d'aller à l'étranger l'avait rendue plus aimable. Un seul domestique accompagnait les voyageurs. La femme de chambre de Lady Montbarry, une silencieuse et revêche créature, avait-on dit à Émilie. Le frère de madame, le baron Rivard, était déjà sur le continent. Il avait été entendu qu'il retrouverait à Rome sa sœur et son mari. Les semaines se succédaient tristement pour Agnès. Elle montrait dans sa position un courage admirable, voyant ses amis, s'occupant à ses heures de loisirs à lire ou à dessiner, essayant de tout afin pour détourner son esprit des tristes souvenirs du passé. Mais elle avait trop aimé, avait été trop profondément blessée pour que les remèdes moraux qu'elle employait eussent eu une influence quelconque sur elle. Les personnes qui se trouvaient avec elle dans les relations ordinaires de la vie, trompées par l'apparente sérénité de ses manières, étaient d'accord pour dire que Miss Lockwood paraissait oublier ses malheurs. Mais une vieille amie à elle, une amie de pension, qui la vit pendant un petit voyage à Londres, fut très vivement alarmée par le changement qu'elle remarqua chez Agnès. Cette amie était Madame Westwick, femme de ce frère cadet de Lord Montbarry, que le dictionnaire nobiliaire indiquait comme héritier présomptif du titre. Il était à l'Amérique, surveillant les propriétés minières qu'il y possédait. Madame Westwick insista pour emmener Agnès chez elle en Irlande. « Mais venez me tenir compagnie pendant que mon mari est absent. Mes trois petites filles vous feront une société. » La seule étrangère que vous verrez est la gouvernante, et je réponds d'avance que vous l'aimerez. Faites vos paquets, et je viendrai vous prendre demain pour aller à la gare. » Agnès ne pouvait qu'accepter une aussi aimable invitation. Pendant 3 mois, elle vécut heureuse sous le toit de son amie. Les petites filles en larmes s'accrochèrent à ses vêtements lors de son départ. La plus jeune voulait absolument partir à Londres avec Agnès. Moitié plaisantant, moitié sérieusement, elle dit à Madame Westwick en se séparant, « Ben, si votre gouvernante vous quitte, gardez-moi sa place. » Madame Westwick sourit. Les enfants prirent gravement la chose au sérieux et promirent à Agnès de la prévenir. Le jour même où Agnès Lockwood revint à Londres, le passé se rappela à son souvenir. Elle qui tenait tant à l'oublier. Après les premiers embrassements, les premiers compliments, la vieille nourrice qui était restée pour garder l'appartement eut des nouvelles importantes à donner de la femme du courrier. « Oh, la petite Madame Ferrari s'est venue, ma chérie, dans un état affreux, demandant quand vous serez de retour. Son mari a quitté Lord Monbury sans prévenir et personne ne sait ce qu'il est devenu. » Agnès la regarda avec étonnement. « Êtes-vous sûre de ce que vous dites ?» La nourrice répondit qu'elle en était absolument sûre. « Mais mon Dieu, mademoiselle, ajouta-t-elle, la nouvelle vient du bureau des courriers dans Golden Square, le secrétaire, mademoiselle Agnès, du secrétaire lui-même. » À cette nouvelle affirmation, Agnès, surprise et inquiète, envoya sur le champ, la soirée n'était pas encore très avancée, prévenir Madame Ferraris qu'elle était de retour. Une heure après, la femme du courrier arriva dans un état d'agitation incroyable. Quand elle put parler, elle confirma en tout point ce qu'avait dit la nourrice. Après avoir reçu avec assez de régularité des lettres de son mari, datées de Paris, de Rome et de Venise, Émilie lui avait écrit deux fois sans recevoir de réponse. Fort inquiète, elle était allée au bureau à Golden Square demander si on avait des nouvelles de son mari. La poste du matin avait apporté au secrétaire une lettre d'un courrier qui était à Venise. Elle contenait des renseignements sur Ferraris. On avait laissé sa femme en prendre une copie qu'elle apportait à lire à Agnès. Celui qui écrivait disait qu'il était tout récemment arrivé à Venise et que, sachant que son ami Ferraris était avec Laure et Lady Monbury, logé dans un vieux palais vénitien qu'on avait loué à Baye, il était allé pour le voir. Après avoir sonné à une porte ouvrant sur le canal, sans pouvoir se faire entendre, il était allé de l'autre côté donnant dans une étroite allée, comme la plupart des rues de la ville. Il trouva sur le seuil de la porte, comme si elle se fût attendue à ce qu'il vînt ensuite par là, une femme pâle avec de magnifiques yeux clairs, qui n'était autre que Lady Monbury. Elle lui demanda en italien ce qu'il voulait. Il répondit qu'il désirait voir le courrier Ferrari, si cela était possible. Aussitôt, elle lui dit que Ferraris avait quitté le palais, sans donner aucune explication, sans même laisser une adresse à laquelle on put lui faire parvenir les gages du mois courant qui lui étaient dus. Tout étonné, le courrier demanda si quelqu'un avait fait de vifs reproches à Ferrari ou si l'on s'était disputé avec lui. Voici la réponse même de la dame. « Non, à ma connaissance, on n'a rien dit à Ferrari et il n'a eu de dispute avec personne. Je suis Lady Monbury et je puis vous assurer que Ferrari a été traité chez nous avec la plus grande bonté. Nous sommes aussi étonnés que vous de la disparition extraordinaire. Si vous entendez parler de lui, je vous prie de nous le faire savoir afin que nous puissions au moins lui payer ce qui lui est dû. » Après une ou deux questions qu'elle répondit encore sur la date et l'heure à laquelle Ferrari avait quitté le palais, le courrier s'éloigna. Sur le champ, il commença les recherches nécessaires sans le moindre résultat. D'ailleurs, personne n'avait vu Ferrari. Il n'avait fait de confidence à personne. En un mot, nul ne savait quoi que ce fût d'important, pas même sur Lord et Lady Monbury. Le bruit courait bien que la servante anglaise de Madame l'avait quitté avant la disparition de Ferraris pour retourner auprès de sa famille dans son pays et que Lady Bunbury n'avait pas cherché à la remplacer. On parlait de Milord comme d'un homme d'une santé faible. Il vivait dans la plus absolue solitude. Personne n'était admis à le voir, pas même ses compatriotes. On avait découvert une vieille femme imbécile qui faisait le ménage. Elle arrivait le matin et s'en allait le soir, mais elle n'avait jamais vu le courrier. Elle n'avait même pas aperçu Lord Mulberry, qui restait alors confiné dans sa chambre. Madame, une bien bonne et bien charmante maîtresse, prodiguait des soins assidus à son mari. Il n'y avait pas d'autre père domestique dans la maison, du moins la bonne femme n'en connaissait pas d'autre qu'elle. On faisait venir les repas du restaurant. Milord, disait-on, n'aimait pas les étrangers. Le beau-frère de Milord, le baron, était généralement enfermé dans un endroit retiré du palais, occupé, disait l'excellente maîtresse, à des expériences de chimie. Ces expériences répondaient quelquefois à une mauvaise odeur. Un médecin avait été appelé récemment pour voir sa seigneurie, un médecin italien, résident depuis longtemps à Venise. On lui fit quelques questions. C'était un médecin de talent et un noble d'une réputation fort honorable. Il n'avait pas vu Ferraris, ayant été mandé au palais, comme il le fit voir par son agenda, à une date postérieure à la disparition du courrier. Le médecin donna quelques détails sur la maladie de Lord Mulberry. C'était une bronchite. Il n'y avait encore aucune crainte à avoir, bien que la maladie fût aiguë. Si des symptômes alarmants venaient à se produire, il était entendu avec madame qu'on appellerait un autre médecin. Il était impossible de dire trop de bien de Milady. Nuit et jour, elle veillait au chevet de son mari. Voilà tout ce que révéla l'enquête faite par le courrier « Ami de Ferraris ». La police était à la recherche de l'homme disparu. C'était le seul espoir qui restât à la femme de Ferraris. « Qu'en pensez-vous, mademoiselle ?» demanda avec vivacité la pauvre femme. « Que me conseillez-vous de faire ?» Agnès ne savait que lui répondre. Elle avait réellement souffert en écoutant Émilie. Ce qui se rapportait à Bunbury dans la lettre du courrier, la nouvelle de sa maladie, la triste peinture de la vie retirée qu'il menait, avait rouvert l'ancienne blessure. Elle ne pensait même pas à la disparition de Ferraris. Son esprit était à Venise auprès du malade. « Pensez-vous que cela vous donnerait une idée, mademoiselle, si vous lisiez les lettres que mon mari m'a écrites ? Il n'y en a que trois, ce ne sera pas long. » Agnès, par bonté, se mit à lire les lettres. Elles n'étaient pas des plus tendres. « Chère Émilie et votre affectionnée étaient, bien que conventionnelles, les seuls mots aimables qu'elle continsse. Dans la première lettre, on ne parlait pas très favorablement de Lord Mulberry. Nous quittons Paris demain. Je n'aime pas beaucoup Milord. Il est fier et froid, et entre nous, fort avare de son argent. J'ai eu avec lui des discussions pour des riens, pour quelques centimes sur une note d'hôtel. Et deux fois déjà, il y a eu des mots piquants entre les nouveaux mariés, à cause de la facilité avec laquelle madame a acheté toutes les jolies choses qu'ils ont tentées dans les magasins de Paris. Mes moyens, ne me le perpète pas, il faut que vous dispensiez pas plus que ce que je vous donne. » Il lui a dit très ferme. « Quant à moi, j'aime madame, elle a des façons gracieuses et aimables des étrangères, elle me parle comme si j'étais son égale. » La seconde lettre était datée de Rome. « Les caprices de Milord, écrivait Ferraris, ne nous laissent pas un instant de repos. Il devient d'une humeur intolérable. Je pense qu'il est tourmenté par des souvenirs pénibles. Je le vois constamment lire de vieilles lettres quand sa femme n'est pas là. Nous devions rester à Gênes, mais nous l'a fait quitter à la hâte, de même que Florence. Ici, à Rome, Milady insiste pour se reposer. Son frère est venu nous retrouver. Il y a déjà eu une dispute, à ce que m'a dit la femme de chambre, entre Milord et le baron. Ce dernier voulait emprunter de l'argent à M. Milord, qui a refusé sur un ton qui a offensé le baron Rivard. Milady les a remis d'accord et leur a fait échanger une poignée de main. La troisième et dernière lettre était de Venise. Encore des économies de Milord. Au lieu de rester à l'hôtel, nous avons loué un vieux palais humide, moisi et désert. Milady insiste pour avoir les meilleures chambres partout où nous allons, mais le palais coûte bien moins cher que l'hôtel, et nous l'avons pour 2 mois. Milord a essayé de l'avoir pour plus longtemps. Il prétend que la tranquillité de Venise lui fait du bien. Mais un spéculateur étranger a acheté le palais et va le transformer en hôtel. Le baron est toujours avec nous. Il y a encore eu des ennuis pour des affaires d'argent. J'aime pas le baron. Mes sympathies pour Milady n'augmentent pas non plus. Elle était bien plus aimable avant que le baron nous eût rejoint. Milord paie très exactement, c'est un point d'honneur chez lui. Il n'aime pas se séparer de son argent, mais il s'y décide parce qu'il a donné sa parole. Je reçois mon salaire régulièrement à la fin de chaque mois. Pas un franc de plus, par exemple, bien que j'ai fait une foule de choses qui n'entrent pas dans le service d'un courrier. Figurez-vous, le baron essayant de m'emprunter de l'argent à moi. C'est un joueur endurci. Je n'avais pas cru quand la femme de chambre de Milady me l'avait dit, mais j'en ai vu assez depuis pour me convaincre. J'ai vu en outre d'autres choses qui, eh bien, qui n'augmentent pas mon respect pour Milady et le baron. La femme de chambre a l'intention de s'en aller. C'est une Anglaise rigide qui ne prend pas les choses tout à fait aussi bien que moi. La vie est bien triste ici. On ne va à nulle part, pas une âme ne vient à la maison. Personne ne fait de visite à Milord, pas même le consul, son banquier non plus. Quand il sort seul, et généralement vers la tombée de la nuit. À la maison, il s'enferme dans sa chambre avec ses livres et voit aussi peu sa femme et le baron que possible. Je crois que nous ne sommes pas loin d'une crise. Quand les soupçons de Milord seront une fois éveillés, les conséquences seront terribles. Dans certains cas, je crois, Lord Bunbury, homme à ne s'arrêter devant rien. Néanmoins, mes gains sont bons et mes moyens ne me permettent pas de quitter la place comme la femme de chambre de Milady. Agnès, avec un sentiment de honte et de chagrin qui n'en faisait pas une bonne conseillère pour la malheureuse femme qui implorait ses avis, rendit les lettres qui venaient de lui apprendre les peines qu'avait déjà supportées par sa faute l'homme qui l'avait abandonnée. « La seule chose que je puisse vous dire, reprit-elle après avoir prononcé quelques paroles de consolation et d'espoir, et qu'il faut consulter une personne plus d'expérience que moi. Voulez-vous que j'écrive à mon notaire, qui est en même temps mon ami et mon homme d'affaires, de venir demain, dès qu'il aura terminé ses travaux ? » Émilie accepta cette proposition avec reconnaissance. On prit rendez-vous pour le lendemain. Agnès se chargea d'écrire la lettre nécessaire, et la femme du courrier s'en alla. Fatiguée, blessée au cœur, Agnès s'étendit sur le canapé pour se reposer et se remettre un peu. La nourrice, toujours pleine de sollicitude, lui apporta une tasse de thé. Le bavardage de la bonne vieille, qui roula sur elle-même et sur ce qu'elle avait fait pendant l'absence d'Agnès, fut une sorte de soulagement. Elle causait beaucoup, encore tranquillement, quand on frappa un coup violent à la porte de la maison. des pas précipités montèrent l'escalier. La porte de la chambre fut ouverte avec fracas, et la femme du courrier entra comme une folle. « Il est mort! Ils l'ont assassiné !» Ce fut tout ce qu'elle put dire. Elle se jeta à genoux auprès du canapé, et tendit une main qui serrait un papier tomba à la renverse. La nourrice fit signe à Agnès d'ouvrir la fenêtre et s'occupa de rappeler la malheureuse à la vie. « Qu'est-ce donc que cela ? » s'écria-t-elle tout à coup. « Et tiens, une lettre. Voyez ce que c'est, mademoiselle ?» L'enveloppe ouverte était adressée à Madame Ferraris. L'écriture était évidemment contrefaite. Le cachet de la poste était celui de Venise. L'enveloppe renfermait une feuille de papier à lettres et un billet plié en plusieurs doubles. La lettre avait une ligne d'une écriture contrefaite également. « Pour vous consoler de la perte de votre mari. » Agnès ouvrit ensuite un morceau de papier qui était joint. C'était un billet de la Banque d'Angleterre de 1000 livres sterling. Chapitre 6. Le lendemain, l'ami et conseiller d'Agnès Lockwood, M. Troy, vint au rendez-vous dans la soirée. Madame Ferraris, toujours convaincue de la mort de son mari, était suffisamment remise pour assister à la consultation. Aidée par Agnès, elle dit au notaire le peu que l'on savait relativement à la disparition de Ferraris, et lui montra ensuite les lettres ayant trait à cette affaire. M. Troy lut d'abord les trois lettres adressées par Ferraris à sa femme, puis la lettre écrite par le courrier, ami de Ferraris, racontant sa visite au palais et son entrevue avec Lady Mumbury, puis enfin la ligne d'écriture anonyme qui avait accompagné le don extraordinaire de 1000 livres sterling fait à la femme de Ferraris. M. Troy n'était pas absolument et seulement un homme de savoir et d'expérience dans sa profession, c'était un homme connaissant les mœurs de l'Angleterre et celles de l'étranger. Observateur habile, esprit original, il avait conservé sa bonté naturelle que la triste expérience qu'il avait acquise de l'humanité n'avait pu altérer. Malgré toutes ses qualités, était-ce le meilleur conseiller qu'Agnès pût choisir dans les circonstances actuelles? La petite Madame Ferraris, avec tous ses mérites de bonne femme de ménage, était une femme essentiellement commune. M. Troy, lui, était la dernière personne qui eût su lui inspirer des sympathies ou de la confiance. Il était tout l'opposé d'un homme ordinaire. Elle a l'air bien malade, la pauvre petite. C'est ainsi qu'il entama l'affaire, parlant de Madame Ferraris comme si elle n'eût pas été là. Elle a subi un terrible malheur, répondit Agnès. M. Troy se tourna vers Madame Ferraris et la regarda de nouveau avec l'intérêt qu'on accorde en général à la victime d'un malheur. D'un air distrait, il tapotait sur la table avec ses doigts. Puis il se décida à parler. « Vous ne croyez réellement pas, ma chère madame, que votre mari soit mort ?» Madame Ferraris mit son mouchoir sur ses yeux. « Mort, oh, ce mot le rendait nullement sa pensée. « Mais assassiné !» dit-elle sèchement, la figure cachée par son mouchoir. « Mais pourquoi et par qui ?» demanda M. Troy. Madame Ferraris parut hésiter un peu à répondre. « Vous avez lu les lettres de mon mari, monsieur, commença-t-elle. Je crois qu'il a découvert. » Et elle s'arrêta. « Et qu'a-t-il découvert ?» Et il y a des limites à la patience humaine, même à la patience d'une femme désolée. Cette froide question irrita Madame Ferraris au point de la faire s'expliquer enfin clairement. Bien, il a découvert Lady Monbury avec le baron, répondit-elle avec un éclat de voix. Le baron n'est pas plus le frère de cette misérable femme que moi. Mon pauvre cher mari s'est aperçu de l'infamie de ces deux coquins. La femme de chambre a quitté sa place à cause de cela. Si Ferraris s'en était allé aussi, il serait en vie maintenant. Ils l'ont tué, je dis qu'ils l'ont tué, pour empêcher que tout n'arrivât aux oreilles de Lord Monbury. Puis, en quelques mots de plus en plus vifs, s'exaltant à mesure qu'elle parlait, Madame Ferraris donna son opinion sur l'affaire. Sans se prononcer, M. Troy écouta avec une expression de railleuse approbation. C'est très remarquablement arrangé, Madame Ferraris, dit-il. Vous bâtissez bien vos phrases et vous posez vos conclusions de main de maître. Si vous étiez homme, vous auriez fait un excellent avocat, vous auriez employé les jurés corps à corps. Terminez, ma bonne dame, terminez maintenant. Dites-nous qui vous a envoyé cette lettre contenant le billet de banque. Les deux misérables qui ont assassiné M. Ferraris n'auraient pas, je crois, mis la main à la poche pour vous envoyer 1000 livres. Qui est-ce, hein? Je crois que le timbre de la poste est Venise. Avez-vous quelque ami dans cette ville intéressante, un ami au cœur large comme sa bourse, qui ait été mis dans le secret et qui veuille vous consoler en gardant l'anonyme? Il n'était guère facile de répondre à cela. Madame Ferraris commença à ressentir une sorte de haine pour M. Troy. « Je vous comprends pas, monsieur, répondit-elle. Je ne pense pas qu'il y ait dans cette affaire sujet à plaisanterie. » Agnès intervint alors pour la première fois. Elle approcha un peu sa chaise de celle de son amie. « À votre avis, lui demanda-t-elle, quelle explication vous semble plausible ? J'offenserai Madame Ferraris en le disant, répondit M. Troy. Non, monsieur, vous ne m'offenserez en aucune façon, s'écria Madame Ferraris, qui maintenant ne prenait plus la peine de cacher l'inimitié qu'elle ressentait pour M. Troy. Le notaire se renversa sur sa chaise. Très bien, dit-il de l'air le plus affable. Terminons donc. Remarquez, madame, que je ne discute pas votre manière de voir sur ce qui a pu se passer au palais à Venise. Vous avez les lettres de votre mari sur lesquelles vous vous appuyez, et vous avez aussi, en faveur de votre thèse, le départ significatif de la femme de chambre de Lady Monbury. Supposons donc tout d'abord que Lord Monbury ait subi quelque injure, que M. Ferraris ait été le premier à s'en apercevoir et que les coupables aient eu des raisons de craindre non seulement qu'il instruisît Lord Monbury de sa découverte, mais encore qu'il pût être le principal témoin à charge contre eux si le scandale éclatait et venait à se dénouer devant un tribunal. Maintenant, faites bien attention. En admettant tout cela, j'arrive à une conclusion totalement opposée à la vôtre. Voici votre mari dans ce misérable ménage à trois, y vivant d'une manière fort embarrassante pour lui. Que fait-il? Il y a le billet de banque et les quelques mots qu'il vous a envoyés. Sans cela, je pourrais dire qu'on a agi prudemment en prenant la fuite et qu'il s'est sagement retiré de l'association dont je viens de parler, après avoir découvert un secret qui pouvait lui attirer certains désagréments. Mais la somme que vous avez reçue ne permet pas de soutenir cette opinion. Ma seconde hypothèse n'est pas, je vous l'avoue, très favorable à M. Ferraris. Je crois qu'on a eu intérêt à l'éloigner et je prétends maintenant qu'il a été payé pour disparaître et que le billet de banque que voici est le prix de son départ subi. prix que les coupables ont envoyé à sa femme. Les yeux gris clairs de Madame Ferraris s'éclairèrent soudain, son teint plombé d'ordinaire s'empourpora subitement. « Mais c'est faux » cria-t-elle. « C'est une honte, c'est une infamie de parler ainsi de mon mari. » « Je vous avais bien dit que je vous offenserais, » repartit M. Troy. Agnès intervint une fois encore pour établir la paix. Elle prit la main de l'épouse offensée et elle fit remarquer au notaire ce qu'il y avait d'injurieux pour Ferraris dans ses soupçons et en appela à lui-même de son propre jugement. Pendant qu'elle parlait, la nourrice interrompit l'entretien en entrant dans la chambre avec une carte de visite. C'était la carte d'Henry Westwick. Il avait quelques mots écrits à la hâte au crayon. J'apporte de mauvaises nouvelles. Laissez-moi vous voir un instant en bas. Agnès quitta immédiatement la chambre. Seul, avec Madame Ferraris, M. Troy montra enfin la bonté de son cœur. Il essaya de faire la paix avec la femme du courrier. Vous avez parfaitement le droit, ma chère dame, de ressentir aussi vivement une appréciation qui vous semble injurieuse pour votre mari, reprit-il. Je dois même dire que je vois un respect plus qu'en vous, voyant prendre ainsi chaleureusement sa défense. Mais aussi, n'oubliez pas, vous, que mon devoir, dans une aussi grave affaire, est de dire sincèrement ce que je pense. Il est impossible que j'aie l'intention de vous être désagréable, ne connaissant ni vous ni M. Ferraris. 1000 livres sterling, c'est une grosse somme. Et quelqu'un qui n'est pas riche peut être excusable de se laisser tenter quand on lui demande non pas de commettre une mauvaise action, mais seulement de se tenir à l'écart pendant un certain temps. Mon seul but, agissant en votre faveur, est d'arriver à la vérité. Si vous voulez bien m'accorder du temps, je ne vois encore aucune raison qui puisse empêcher d'espérer qu'on retrouve votre mari. La femme de Ferrari s'écouta sans se laisser convaincre. Son esprit borné et plein de méfiance contre M. Droy ne lui permettait pas de comprendre ce qui aurait dû la faire revenir sur sa première impression. « Je vous suis très obligé, monsieur. » C'est tout ce qu'elle répondit. Mais ses yeux furent plus expressifs et ils ajoutèrent très clairement dans leur langage « Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, je vous pardonnerai jamais de ma vie. » M. Troy abandonna la partie. Il recula tranquillement sa chaise, mit ses mains dans ses poches et regarda par la fenêtre. Après quelques instants de silence, la porte du salon s'ouvrit. M. Troy rapprocha vivement sa chaise de la table, s'attendant à voir Agnès. À sa grande surprise, c'est une personne qui lui était complètement étrangère qui entra. Un homme, jeune, ayant sur son visage une expression de tristesse et d'embarras. Il regarda M. Troy et salua gravement. J'ai eu le malheur d'apporter à Miss Agnès Lockwood des nouvelles qui l'ont fortement impressionné, dit-il. Elle s'est retirée dans sa chambre en me priant de vous faire ses excuses et de la remplacer auprès de vous. Après s'être ainsi présenté, il aperçut Madame Ferraris et lui tendit gracieusement la main. Il y a des années que nous nous sommes vus, Émilie. J'ai peur que vous m'ayez presque oublié. Le monsieur Henri, l'autre fois. Émilie, toute confuse, fit la révérence et demanda si elle pouvait être de quelque utilité à Miss Lockwood. Oh, le vieil nourrice est avec elle, répondit Henri. Il vaut mieux les laisser ensemble. Puis il se tourna de nouveau vers M. Troy. « J'aurais dû vous dire mon nom, monsieur. Je m'appelle Henry Westwick. Je suis le plus jeune frère de défunt Lord Montbury. » Défunt Lord Bombary ! S'écria M. Troy. Oui, mon frère est mort à Venise hier soir. Voici la dépêche, dit-il en tendant un papier à M. Troy. Le télégramme était ainsi conçu. Lady Bombary, Venise, à Stephen Robert Swethwick, Newbury Hotel, Londres. Il est inutile de faire le voyage. Lord Bombary est mort de bronchite à 8h40 ce soir. Tout détail nécessaire par poste. Mais cette mort était-elle attendue, monsieur ? Demanda le notaire. Je ne puis pas dire qu'elle nous ait entièrement surpris, répondit Henri. Mon frère Stephen, qui est maintenant le chef de la famille, a reçu il y a 3 jours une dépêche l'informant que les symptômes alarmants s'étaient déclarés dans l'état de mon frère et qu'un deuxième médecin avait dû être appelé. Il télégraphia aussitôt pour dire qu'il avait quitté l'Irlande, se dirigeant sur Londres pour se rendre à Venise, priant qu'on s'adressât à son hôtel les nouvelles qu'il pourrait être utile de lui faire parvenir. Une seconde dépêche arriva. Elle annonçait que Lord Manbury était dans un état d'insensibilité complète et qu'il ne reconnaissait plus personne. On conseillait en outre à mon frère d'attendre à Londres de plus amples informations. La troisième dépêche est maintenant entre vos mains. Voilà tout ce que je sais jusqu'à présent. Monsieur Troy regardait en ce moment la femme du courrier. Il fut frappé par l'expression de peur qui se dessinait nettement sur sa physionomie. Madame Ferraris, lui dit-il, avez-vous entendu ce que vient de me dire Monsieur Westwick ? Mais pas un mot ne m'a échappé, monsieur. Avez-vous quelques questions à faire ? Non, monsieur. Vous paraissez fort alarmé, insista le docteur. Est-ce toujours de votre mari ? Je ne le reverrai jamais, monsieur. Depuis longtemps, je le croyais. Vous savez, maintenant, j'en suis sûr. Sûr après ce que vous avez entendu ? Oui, monsieur. Et pouvez-vous me dire pourquoi ? Non, monsieur, c'est un pressentiment que j'ai, sans pouvoir l'expliquer. Bon, un pressentiment, répéta M. Troy avec un ton de dédain. Plein de compassion. Quand on en arrive au pressentiment, ma bonne dame. Il laissa la phrase inachevée et se leva pour prendre congé de M. Westwick. La vérité, c'est qu'il commençait à se perdre lui-même en conjectures et qu'il ne voulait pas le laisser voir Madame Ferraris. « Acceptez l'expression de toute ma sympathie, monsieur, » dit-il fort poliment à Henry Westwick. « Je vous salue, monsieur. » Henry se tourna vers Madame Ferraris comme l'avocat avait fermé la porte. « J'ai entendu parler de vos peines, Émilie, par Miss Lockwood. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?»« Rien, monsieur, merci. » Peut-être vaut-il mieux que je rentre chez moi après ce qui vient d'arriver. Je viendrai demain voir si je puis être de quelque utilité à Mademoiselle Agnès. Je prends bien part à ses chagrins. Elle s'en alla sans bruit, toujours pleine de déférence, s'obstinant à conserver les idées les plus sombres sur la cause de la disparition de son mari. Harry Westwick regarda autour de lui. Le petit salon était vide. Il n'y avait rien qui pût le retenir dans la maison. Cependant, il y restait. C'était quelque chose déjà d'être près d'Agnès, de voir les objets qui lui appartenaient éparpillés dans la pièce. Là, dans un coin, était son fauteuil, à côté sa broderie sur la table de travail. Sur un petit chevalet, près de la fenêtre, son dernier dessin, encore inachevé. Le livre qu'elle avait lu était sur le canapé avec un couteau à papier marquant la page à laquelle elle s'était arrêtée. Il regarda les uns après les autres tous ces objets qui lui rappelaient la femme qu'il aimait, les prit avec une sorte de respect et les reposa à leur place en soupirant. Ah, qu'elle était encore loin de lui, qu'ils étaient loin de l'autre. Elle n'oubliera jamais mon beau Harby, pensa-t-il en prenant son chapeau pour s'en aller. Pas un de nous ne souffre de sa mort aussi vivement qu'elle. Pauvre femme, comme elle l'aimait. Dans la rue, au moment où Henry fermait la porte de la maison, il fut arrêté au passage par quelqu'un qu'il connaissait, un homme fatigant et curieux, doublement malvenu en ce moment. Triste nouvelle sur votre frère, Westwick. Oh, une mort bien inattendue, n'est-ce pas? Nous n'avions jamais entendu dire au cercle que la poitrine de Lord Monbury fut délicate. Que va faire la compagnie? Henry tressaillit. Il n'avait jamais pensé à l'assurance sur la vie contractée par son frère. Que pouvaient faire les compagnies si l'on payait? Une mort causée par une bronchite attestée par deux médecins était sûrement la mort la moins sujette à discussion. Ah, je voudrais que vous ne m'ayez pas parlé de cela, dit-il d'un ton irrité. Ah, répliqua son ami, vous pensez que la veuve aura l'argent? Moi aussi, oh, moi aussi. Chapitre 7. Quelques jours plus tard, deux compagnies d'assurance reçurent de l'homme d'affaires de la veuve la nouvelle officielle de la mort de Lord Bunbury. La somme assurée à chaque bureau était de 5 000 livres sterling, sur lesquelles une année de prime seulement avait été payée. En pareille occurrence, les directeurs jugèrent utile d'étudier un peu l'affaire. Les médecins attitrés des deux compagnies qui avaient recommandé l'assurance de Lord Monbury furent appelés en conseil pour expliquer les rapports qu'ils avaient faits. Cette nouvelle éveilla la curiosité des personnes s'occupant d'assurance sur la vie. Sans refuser absolument de payer l'argent, les deux bureaux, agissant de concert, décidèrent qu'ils nommeraient une commission d'enquête à Venise pour recueillir de plus amples informations. M. Troy apprit aussitôt ce qui se passait. Il écrivit sur le champ à Agnès pour l'en informer, ajoutant un bon conseil à son avis. « Vous êtes intimement lié, je le sais, lui disait-il, avec Lady Barville, sœur aînée de feu Lord Monbury. L'avocat de son mari est aussi celui de l'une des compagnies d'assurance. » Il peut y avoir, dans le rapport de la commission d'enquête, quelque chose qui ait trait à la disparition de Ferraris. On ne laisserait pas voir cela. Va de soi, un pareil document à des personnes ordinaires. Mais une sœur du feu Lord est une si proche parente qu'on fera sûrement en sa faveur exception aux règles habituelles. Sœur Théodore Barville n'a qu'à manifester le désir et les avocats, même s'ils ne permettent pas à sa femme de prendre connaissance du rapport, répondront du moins à toutes les questions qu'elle leur posera à ce sujet. Dites-moi ce que vous pensez de mon idée le plus tôt possible. » La réponse arriva par retour du courrier. Agnès refusait de suivre le conseil de M. Troy. « Mon intervention, toute innocente qu'elle a été, écrivait-elle, a déjà eu de si déplorables résultats que je ne veux pas me mêler davantage de l'affaire Ferraris. Si je n'avais pas consenti à laisser ce malheureux individu se servir de mon nom, feu Lord Monbury ne l'aurait pas engagé et sa femme n'aurait pas eu à supporter l'incertitude et l'angoisse dont elle souffre aujourd'hui. » En admettant que le rapport dont vous parlez soit entre mes mains, je ne voudrais même pas y jeter les yeux. J'en sais déjà trop sur cette triste vie du palais de Venise. Si Madame Ferrari s'adresse à Lady Barville par votre intermédiaire, Ceci est bien entendu de toute autre affaire, mais dans ce cas, il faut que je vous pose encore une condition absolue, c'est que mon nom ne sera pas prononcé. Pardonnez-moi, cher monsieur Troy, je suis très malheureuse et peut-être très déraisonnable, mais je ne suis qu'une femme et il ne faut pas trop me demander. Battu sur ce point, le notaire conseilla de tâcher de découvrir l'adresse de la femme de chambre anglaise de Lady Monbury. Cette idée, excellente au premier abord, avait une chose contre elle. On ne pouvait la mettre à exécution qu'en dépensant de l'argent, et il n'y avait pas d'argent à dépenser. Madame Ferrari se reculait devant l'idée de se servir du billet de 1000 livres. Elle l'avait mis en sûreté dans une maison de banque. Si l'on parlait devant elle d'y toucher, elle frissonnait de la tête aux pieds et prenait des airs de mélodrame en parlant du prix du sang de son mari. Dans ces conditions, les tentatives à faire pour découvrir le mystère de la disparition de Ferrari se fut remise à un autre moment. C'était dans le dernier mois de l'année 1860. La commission d'enquête était déjà à l'ouvrage, elle avait commencé ses travaux le 6 décembre, et la location faite par Lord Monbury expirait le 10. Les compagnies d'assurance furent avisées par dépêche que les avocats de Lady Monbury lui avaient conseillé de se rendre à Londres dans le plus bref délai. Le baron Rivard, croyait-on, devait l'accompagner en Angleterre. Mais il n'avait pas l'intention de rester dans ce pays, à moins que ses services ne fussent absolument indispensables à sa sœur. Le baron, connu pour un chimiste enthousiaste, avait entendu parler de certaines découvertes récentes faites aux États-Unis, et il désirait les étudier sur place. Monsieur Troy sut bientôt tout cela et s'empressa de communiquer ses nouvelles à Madame Ferraris, qui, dans son inquiétude croissante sur le sort de son mari, faisait de trop fréquentes visites même à l'étude du notaire. Elle voulut redire à son amie et protectrice ce qu'elle avait appris, mais Agnès refusa de l'entendre, et défendit positivement qu'on lui parlât davantage de la femme de Lord Monbury, Lord Monbury n'existant plus. « Monsieur Troy, votre conseil, lui dit-elle, vous serez toujours la bienvenue chez moi. Je suis prête à vous aider du peu d'argent dont je peux disposer, s'il est nécessaire, mais ce que je vous demande en retour, c'est de ne pas me causer de chagrin. J'essaie d'oublier. » La voix lui manqua, elle s'arrêta un instant. « D'oublier, continua-t-elle, les souvenirs qui sont plus douloureux que jamais depuis que j'ai appris la mort de Lord Monbury. Aidez-moi, par votre silence, à retrouver la tranquillité, s'il est possible. Ne me dites plus rien jusqu'à ce que je puisse me réjouir avec vous du retour de votre mari. » On était déjà au 13 du mois, et M. Troy avait recueilli un plus grand nombre de renseignements utiles. Les travaux de la commission d'enquête étaient terminés. Le rapport était arrivé de Venise ce jour même. Chapitre 8. Le 14, les directeurs et leurs conseillers se réunirent pour entendre la lecture du rapport. En voici le texte. Personnel et confidentiel. Nous avons l'honneur d'informer les directeurs que nous sommes arrivés à Venise le 6 décembre 1860. Le même jour, nous nous présentâmes au palais que Lord Monbury habitait au moment de sa dernière maladie. Nous fûmes reçus avec toute la courtoisie possible par le frère de Lady Monbury, M. le baron Rivard. Ma sœur seule a prodigué ses soins à son mari pendant tout le cours de sa maladie, nous dit-il. Elle est accablée de fatigue et de douleur, sans quoi elle eût été ici pour vous recevoir. Que désirez-vous, messieurs, et que puis-je faire pour vous à la place de Milady ? Suivant nos instructions, nous répondîmes que la mort et l'enterrement de Lord Monbury à l'étranger nous obligeaient à prendre quelques informations sur sa maladie et sur les circonstances qui s'y rattachaient, informations qui ne pouvaient être recueillies que de vive voix. Nous expliquâmes que la loi accordait aux compagnies d'assurance un certain temps avant le paiement de la prime, et nous exprimâmes notre désir de conduire l'enquête avec la plus respectueuse considération pour les sentiments de douleur de Lady Monbury et de tous les autres membres de la famille habitant la maison. Le baron répondit « Bon, je suis le seul membre de la famille résidant ici, mais je suis à votre entière disposition et vous pouvez vous regarder dans le palais comme chez vous. » Du commencement à la fin, nous avons trouvé ce monsieur d'une franchise parfaite et il nous a offert très gracieusement de nous aider en tout. À l'exception de la chambre de Milady, nous avons visité chacune des pièces du palais le jour même. C'est un édifice immense, non entièrement meublé. Le premier étage et une partie du second contiennent les pièces qui avait été occupé par Lord Monbury et les gens de sa maison. Nous avons vu, à une extrémité du palais, la chambre à coucher dans laquelle sa seigneurie est morte, et nous avons également examiné la petite chambre y attenant dont le défunt s'est servi comme d'un cabinet de travail. À côté se trouve une grande salle dont il laissait habituellement les portes fermées à clé, et où il allait, comme on nous l'a dit, travailler quelquefois quand il voulait une parfaite tranquillité, une solitude absolue. De l'autre côté de cette grande salle se trouve la chambre à coucher occupée par la veuve et un boudoir cabinet de toilette où dormait la femme de chambre avant son départ pour l'Angleterre. Outre ces pièces, il y a encore les salles à manger, les salles de réception, ouvrant sur une antichambre qui donne accès au grand escalier du palais. Au deuxième étage, les chambres sont le cabinet d'études, la chambre à coucher du baron Rivard, et un peu plus loin, une autre pièce qui a servi de logement au courrier Ferraris. Les salles du troisième étage et du rez-de-chaussée étaient, lorsqu'on nous les a montrées, absolument vides et entièrement délabrées. Nous demandâmes s'il y avait quelque autre chose à visiter au-dessous. On nous répondit sur le champ qu'il restait les caves que nous étions libres de parcourir. Nous y descendîmes afin de ne laisser aucun endroit inexploré. Les caves avaient servi, disait-on, de cachot autrefois, il y a plusieurs siècles. L'air et la lumière ne pénètrent qu'à peine dans ces sombres lieux, par deux espèces de puits étroits et profonds qui communiquent avec une cour située derrière le palais. Leurs orifices élevés, fort au-dessus du sol, sont obstrués par d'épaisses grilles de fer. L'escalier en pierre conduisant dans les caveaux se ferme au moyen d'une lourde trappe que nous trouvâmes ouverte. Le baron descendit devant nous. Nous fîmes la remarque qu'il serait désagréable que la trappe en retombant vint à nous couper la retraite. Le baron sourit à cette idée. « Soyez sans crainte, messieurs, dit-il, la porte tient bon. Mais j'avais grand intérêt à y veiller moi-même lorsque nous sommes venus nous installer ici. La chimie expérimentale est mon étude favorite, et mon laboratoire, depuis que nous sommes à Venise, est ici. » Ah, cette dernière phrase nous expliqua une odeur bizarre répandue dans les caveaux, odeur qui nous frappa au moment où nous y entrâmes. Cette odeur était pour ainsi dire d'une double essence. Elle semblait tout d'abord légèrement aromatique, mais ensuite on s'apercevait d'une senteur âcre qui saisissait à la gorge. Les fourneaux, les appareils du baron et tous les autres ustensiles bizarres que nous vîmes parlaient par eux-mêmes, ainsi que les paquets de produits chimiques qui portaient très lisiblement sur l'étiquette le nom et l'adresse des fournisseurs. « Bon, c'est pas un endroit agréable pour travailler, nous dit le baron, mais ma sœur est très peureuse et a horreur des odeurs de produits chimiques et des explosions. Aussi m'a-t-elle relégué dans ces régions souterraines afin de ne s'apercevoir en aucune façon de mes expériences. » Il étendit les mains sur lesquelles nous avions déjà remarqué des gants. Il arrive quelquefois des accidents, en quelques précautions qu'on puisse prendre, ajouta-t-il. Ainsi, l'autre jour, je me suis brûlé les mains en essayant un nouveau mélange, mais je commence à se guérir maintenant. Si nous insistons sur tous ces détails qui semblent n'avoir aucune importance, c'est pour montrer que notre visite du palais n'a été entravée en aucune façon. Nous avons même été admis dans la chambre particulière de Lady Monbury pendant qu'elle était sortie quelques instants pour prendre l'air. Nous avons été spécialement chargés d'examiner avec soin la résidence du Lord parce que l'extrême isolement de sa vie à Venise et l'étonnant départ des deux seuls domestiques de la maison pouvaient peut-être avoir un certain rapport avec son décès inattendu. Mais nous n'avons rien trouvé qui justifiât l'ombre d'un soupçon. Quant à la vie retirée que menait Lord Murray, nous en avons parlé avec le consul d'Angleterre et le banquier de la famille, les deux seules personnes qui étaient en rapport avec lui. Il se présenta lui-même une fois à la maison de banque pour se faire remettre de l'argent sur une lettre de crédit et refusa d'accepter l'invitation que lui fit le banquier de venir passer quelques heures à sa résidence particulière, invoquant son état de santé. Lord Monbury écrivit la même chose au consul en lui envoyant sa carte pour s'excuser de ne pas rendre personnellement la visite qui lui avait été faite au palais. Nous avons eu la lettre entre les mains et nous sommes heureux de pouvoir en donner la copie suivante. Les années que j'ai passées dans les Indes ont fortement ébranlé ma constitution. J'ai cessé d'aller dans le monde. Ma seule occupation maintenant est l'étude de la littérature orientale. Le climat de l'Italie est meilleur pour ma santé que celui de l'Angleterre. Sans cela, je n'aurais jamais quitté mon pays. Je vous prie donc de vouloir bien accepter les excuses d'un malade qui ne trouve de soulagement que dans l'étude. Ma vie d'homme du monde est terminée maintenant. La réclusion volontaire de Lord Monbury nous paraît expliquée par ces quelques lignes. Nous n'avons néanmoins épargné ni nos peines ni nos recherches sur d'autres pistes. Nous n'avons rien trouvé qui puisse faire naître le plus léger soupçon. Quant au départ de la femme de chambre, nous avons vu le reçu de ses gages dans lequel elle déclare expressément qu'elle quitte le service de Lady Monbury parce qu'elle n'aime pas le continent et qu'elle veut retourner dans son pays. Ce qui s'est passé là n'a rien d'étrange et arrive fort souvent quand on emmène des domestiques anglais à l'étranger. Lady Monbury nous a appris qu'elle n'a pas cherché à remplacer sa femme de chambre à cause de l'extrême antipathie qu'avait son mari pour les figures nouvelles, surtout depuis que son état de santé s'était aggravé. La disparition du courrier Ferrari, c'est évidemment un fait extraordinaire. Ni Lady Monbury, ni le baron ne peuvent expliquer. Aucune recherche de notre part n'a amené le moindre éclaircissement à ce mystère, mais nous n'avons rien trouvé non plus qui puisse faire rattacher ce fait de près ou de loin à la cause spéciale de notre enquête. Nous avons été jusqu'à examiner la malle que Ferrari s'a laissée. Elle ne contient que des effets du linge. La malle est entre les mains de la police. Nous avons eu aussi occasion de parler en particulier à la vieille femme qui fait les chambres qu'occupent la veuve et le baron. Elle a été prise sur la recommandation du propriétaire du restaurant qui fournit le repas à la famille. Sa réputation est excellente. Malheureusement, son intelligence obtuse en fait un témoin de nulle valeur pour nous. Nous avons mis toute la patience et tout le soin possible à la questionner. Elle s'est montrée pleine de bonne volonté, mais nous n'avons rien tiré et qui vaille la peine d'être reproduit dans le présent rapport. Le second jour de notre arrivée, nous eûmes l'honneur d'une entrevue avec Lady Monbury. Elle avait l'air très abattue, complètement, très souffrante et semblait ne pas comprendre ce que nous lui voulions. Le baron Rivard, qui nous introduit auprès d'elle, expliqua la cause de notre séjour à Venise et fit de son mieux pour la convaincre. Nous ne faisions que remplir une formalité. Après cette explication, le baron se retira. Les questions que nous adressâmes à Lady Monbury avaient surtout rapport, bien entendu, à la maladie du Lord. Elle nous répondit par saccades, d'une manière très nerveuse, mais en apparence, du moins, sans la moindre réserve. Voici le résultat de notre conversation avec elle. La santé de Lord Monbury n'était plus la même depuis quelque temps. Il se montrait nerveux et irritable. Le 13 novembre dernier, il se plaignit d'avoir attrapé froid. La nuit fut mauvaise, et le jour suivant, il garda le lit. Milady proposa d'aller chercher un médecin. Il s'y refusa, disant qu'il pouvait parfaitement se soigner lui-même pour un rhume. À sa demande, on lui fit de la limonade chaude pour le faire transpirer. La femme de chambre de Lady Monbury était déjà partie à cette époque. Le courrier Ferraris restait donc seul comme domestique. Ce fut lui qui alla acheter les citrons. Lady Monbury fit la boisson de ses propres mains. Elle eut le résultat qu'on en attendait. Le lord eut quelques heures de sommeil. Dans la journée, Lady Monbury, ayant besoin de Ferraris, le sonna. Il ne répondit pas à cet appel. Le baron Rivard le chercha en vain dans le palais et dans la ville. À partir de ce moment, on n'a pu découvrir aucune trace de Ferraris. Ceci se passa le 14 novembre. Dans la nuit du 14, les symptômes de fièvre qui s'étaient déjà manifestés reprirent avec plus de force. On attribua cette recrudescence de la maladie à l'ennui et à l'inquiétude causée par la disparition mystérieuse de Ferraris. Il avait été impossible de la cacher au Lord, qui demandait fort souvent le courrier, insistant pour que l'homme remplaçât son cheval Lady Monbury ou le baron. Le 15, le jour où la vieille femme vint pour la première fois faire le ménage, le lord se plaignit d'un violent mal de gorge et d'un sentiment d'oppression sur la poitrine. Ce jour-là et le lendemain 16, Lady Monbury et le baron tâchèrent de le décider à avoir un docteur, mais il s'y refusa de nouveau. « Je ne veux pas voir de visage étranger. Mon rhume suivra son cours. Les médecins n'y peuvent rien. » Telle fut sa réponse. Le 17, il allait bien plus mal. Aussi envoya-t-on chercher un médecin sans le consulter. Le baron Rivard, sur la recommandation du consul, alla prévenir le docteur Bruno, bien connu à Venise pour un homme de talent. Il avait habité l'Angleterre, dont il connaît les mœurs et les habitudes. Voilà, jusqu'ici, nous n'avons fait que reproduire ce que Lady Monbury nous a révélé sur la maladie de son époux. Maintenant, nous allons copier textuellement le rapport qu'a bien voulu nous communiquer le médecin. Mon agenda m'apprend que je fus appelé pour la première fois auprès du lord anglais Monbury, le 17 novembre. Il souffrait d'une violente bronchite. On avait déjà perdu un temps précieux à cause de son refus de faire appeler un médecin. Il me fit l'effet d'être d'une constitution délicate. Il avait une désorganisation du système nerveux. Il était à la fois timide et taquin. Quand je lui parlais en anglais, il répondait en italien. Et quand je lui parlais en italien, il répondait en anglais. Ces détails n'ont aucune importance d'ailleurs, car la maladie avait déjà fait de tels progrès qu'il pouvait à peine prononcer quelques mots à voix basse. Sur le champ, je prescrivis les remèdes nécessaires. Des copies de mes ordonnances avec la traduction en anglais accompagnent le présent rapport et parlent d'elles-mêmes. Pendant les 3 jours suivants, je ne quittais pas mon malade. Il suivit de point en point mes remèdes qui produisirent un excellent effet. En toute assurance, je pus dire à Lady Monbury que tout danger était conjuré. Mais c'est en vain que j'essayais de lui faire accepter les services d'une garde-malade expérimentée. Milady ne voulut permettre à personne de soigner son mari. Nuit et jour, elle était à son chevet. Pendant qu'elle prenait quelques courts moments de repos, son frère veillait le malade à sa place. Je dois dire que j'ai trouvé ce frère de très bonne compagnie dans les rares intervalles où nous avons pu causer ensemble. Il s'occupait de chimie, tripotait quelques expériences dans les sous-sols du palais bâti sur pilotis et voulait me faire assister à ces expériences, mais j'ai assez de m'occuper de chimie en étudiant pour mon compte et je refusais. Mais il a pris la chose fort gaiement. Mais je m'éloigne de mon sujet. Revenons à notre malade. Jusqu'au 20, les choses allèrent assez bien. Je n'étais nullement préparé au triste événement qui s'annonça le 21 au matin quand je fis ma visite à Lord Monbury. Son état s'était aggravé sérieusement. En l'examinant, je découvris des symptômes de pneumonie, ce qui veut dire en langue vulgaire inflammation de la substance des poumons. Il respirait avec difficulté et les quintes de toux ne parvenaient à le soulager qu'en partie. Je m'inquiétais de ce qui avait pu se passer. Je fis à cet égard une véritable enquête qui n'eut d'autre résultat que de me convaincre que mes ordonnances avaient été suivies avec autant de soin que par le passé et qui n'avaient été exposées à aucun changement de température. Ce fut à mon grand regret qu'il me fallut augmenter le chagrin de Lady Monbury, mais je dus, lorsqu'elle me parla de faire appeler un second médecin en consultation, lui avouer que ce n'était réellement pas la peine. Milady me pria de ne rien épargner et de demander l'avis du plus célèbre médecin d'Italie. Heureusement, nous n'avions pas à aller bien loin. Le premier des médecins italiens est Torello de Padoue. J'envoyai un express pour le demander. Il arriva dans la soirée du 21 et confirma en tout point mon opinion sur la pneumonie. Il ajouta que la vie de notre malade était en danger. Je lui dis quel avait été mon traitement et il l'approuva sans réserve. Il fit de précieuses recommandations et, à la prière de Lady Monbury, consentit à différer son retour à Padoue jusqu'au lendemain matin. Nous vîmes tous deux le malade à plusieurs reprises dans la nuit. La maladie s'aggravait d'heure en heure malgré tous nos soins. Le matin, le docteur Torello prit congé de nous. Cet homme est perdu, rien n'y fera. On devrait le prévenir, me dit-il. Dans la journée, je prévins le lord aussi doucement que je pus que sa dernière heure était arrivée. On m'assure qu'il y a de sérieuses raisons pour que je dise tout ce qui se passe entre nous à ce sujet. Les voici donc. Lord Monbury reçut la nouvelle de sa mort prochaine avec résignation, mais sans y croire absolument. Il me fit signe de m'approcher et murmura faiblement ces mots à mon oreille. « Puis-je avoir confiance en vous ?» Je lui répondis, « Vous pouvez avoir pleine et entière confiance en moi. » Il attendit un peu, respirant à peine, et reprit à voix basse, « Cherchez sous mon oreiller. » Je trouvai une lettre cachetée et affranchie, prête à être mise à la poste. Et c'est à peine si je l'entendis prononcer les paroles suivantes, « Mettez-la vous-même à la poste. » Je répondis que je le ferais, et je le fis. Je regardai l'adresse, elle était pour une dame de Londres. Je ne me souviens pas de la rue, mais je me rappelle parfaitement le nom. C'était un nom italien, Madame Ferraris. Cette nuit-là, sa seigneurie mourut. La congestion pulmonaire commença. Je le fis aller encore quelques heures, et le lendemain matin, je vis dans ses yeux qu'il ne me comprenait quand je lui dis que j'avais mis sa lettre à la poste. Ce fut le dernier signe de connaissance qu'il donna. Quand je le revis, il était, pour ainsi dire, tombé en léthargie. Il languit dans un état d'insensibilité complète, soutenu, pour ainsi dire, par des moyens artificiels, jusqu'au 23, et mourut le soir sans connaissance. Quant à une cause de sa mort, étrangère à celle que je viens d'indiquer, il est, si je puis m'exprimer ainsi, absurde de vouloir la découvrir. Une bronchite se terminant par une pneumonie, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Telle fut la maladie dont il mourut. C'est aussi certain que 2 et 2 font 4. Je joins ici une note du docteur Torello lui-même, qui vient à l'appui de mon opinion, afin, comme on me l'a demandé, de satisfaire pleinement les compagnies anglaises qui ont assuré la vie de Lord Monbury. Ces compagnies d'assurance ont été sans doute mal fondées par ce saint, si célèbre par son incrédulité dont parle le Nouveau Testament, et qui annonce, si je me trompe, saint Thomas. Ici se termine la déposition du docteur Bruno. Revenons pour un instant aux questions que nous avons faites à Lady Monbury. Il nous reste à ajouter qu'elle n'a pu nous donner aucun renseignement au sujet de la lettre que le docteur a mise à la poste à la demande de Lord Monbury. Quand le Lord l'a-t-il écrite? Que contenait-elle? Pourquoi la cachait-il à sa femme et à son beau-frère? Pourquoi pouvait-il écrire à la femme du courrier? Telles furent les demandes auxquelles elle fut incapable de nous répondre. La chose mérite d'être éclaircie, comme tout mystère encore inexpliqué. Quant à nous, cette lettre sous l'oreiller du Lord nous semble en tout point inexplicable. Mais une question, Madame Ferraris peut tout apprendre. On aura facilement son adresse à Londres, au bureau des courriers italiens, dans Golden Square. Arrivé à la fin du présent rapport, nous devons attirer votre attention sur sa conclusion, qui est justifiée par le résultat de nos recherches. La question que se pose le directeur et nous-mêmes est celle-ci. L'enquête a-t-elle révélé quelques circonstances extraordinaires qui rendent suspecte la mort de Lord Monbury ? L'enquête a sans nul doute révélé des circonstances extraordinaires, telles que la disparition de Ferraris, l'absence absolue de train de maison et de domestique chez Lord Monbury, la lettre mystérieuse que le Lord a demandé au docteur de mettre à la poste. Mais où y a-t-il dans tout cela la preuve qu'aucune de ces circonstances se rapporte directement ou indirectement à la seule chose qui nous intéresse, la mort de Lord Monbury ? En l'absence de toute preuve et devant le témoignage de 2 éminents médecins, il est impossible de prétendre que la fin du Lord ne soit pas naturelle. Nous sommes donc obligés de conclure qu'il n'y a aucune cause pouvant motiver le refus de payer la somme pour laquelle Lord Bombury était assuré. Le présent rapport partira par la poste le demain 10 décembre. On aura le temps de nous envoyer de nouvelles instructions, si on le juge nécessaire, en réponse à notre dépêche de ce soir, annonçant la conclusion de l'enquête.